Radio Caravane.
Radio Caravane.
Des saltos.
Des saltos.
Des saltos.
Au studio.
Radio Caravane, des saltos au studio.
Rencontre avec Gilles Caillot de la compagnie Attention Fragile, qui participera à la nuit du cirque numérique le 14 novembre 2020. Il nous livre trois extraits de son livre « Lettres à de jeunes poètes », petits éléments à verser à la réflexion sur l'enseignement et l'écriture du cirque contemporain. On l'écoute.
Alors c'est un chapitre, je crois qu'il est plus court et il part d'une histoire très personnelle qui n'a rien à voir avec ce que je raconte. Mais c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. Voilà. J'ai aimé trois Hélènes. Deux d'amour et une de tendresse, et je les ai toutes les trois brutalement perdues. La première, j'avais 15 ans, j'en étais amoureux fou, mais elle aimait mon meilleur ami. Coincé dans la friend zone, j'ai fait bonne figure à parler avec elle de ses amours qui n'étaient pas moi, puis au milieu de l'année, elle est partie en Corse, d'où elle venait, et on s'est écrit. Alain, c'était le nom de mon ami, son amoureux, lui manquait beaucoup, elle avait besoin d'une oreille. Je me souviens de son adresse, c'était juste le nom d'une plage. Hélène G, plage d'Herbarossa, 20240 Ghisonaccia. En juin, à la 6 ou 7e lettre, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai écrit « Je t'aime » et elle ne m'a plus jamais répondu. Ma deuxième Hélène, je l'avais aimée elle aussi sans lui dire et je ne sais pas trop comment, je m'étais retrouvé dans ses bras une nuit chez elle, presque 10 ans après notre première rencontre et ma bouche sur sa bouche. Commença alors entre nous une histoire intermittente, on habitait à 500 km l'un de l'autre, on ne se voyait pas souvent et même plus du tout pendant une année entière. Et lorsque le premier enfant de ma sœur est né, je suis allé à Lille où elle venait d'accoucher. Au retour, j'ai téléphoné à Hélène, je lui ai demandé si elle avait envie de me voir. Elle m'a dit oui. Elle habitait Bordeaux, ce n'était pas vraiment sur ma route, mais à cette époque j'adorais faire 500 ou 1000 km pour une nuit d'amour. Je suis arrivé, on a fait comme d'habitude, je l'ai embrassée, on a mangé. Très exactement, j'ai mangé debout derrière elle en la caressant. Et même au dessert, je l'ai à demi déshabillée. J'ai renversé doucement sa chaise et on a fini le repas comme ça, elle toujours assise à l'horizontale, torse nu et moi au-dessus d'elle. On est allé se coucher assez vite, mais elle est restée assise. Au bord du lit, elle m'a dit qu'elle ressortait, qu'elle avait rendez-vous, que je pouvais rester si je voulais. Grand silence dans la chambre. J'étais un peu estomaqué. D'accord, on ne s'était rien promis, mais elle avait bien le droit d'avoir rendez-vous, mais quand même, je venais de traverser la France. Et en repensant à la soirée, je me suis aperçu qu'effectivement, elle ne m'avait ni embrassé, ni caressé. Elle s'était juste laissée faire. Ça m'a mis très en colère. Je suis ressorti de chez elle avant elle, je suis monté dans ma voiture, mais je n'arrivais pas à repartir. J'étais trop en colère contre elle et contre moi qu'elle m'ait laissé l'embrasser sans en avoir envie, qu'elle ne m'ait pas arrêté, que je ne m'en sois pas aperçu. Je l'imaginais patienter pendant mes caresses. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu le sentiment de la trahison. Et c'est la seule personne avec laquelle je sois encore et sans doute injustement fâché. Ma troisième Hélène était une de mes anciennes élèves de l'école Châtellerault. Et 3 ans après, on était, je crois, en train de devenir amis. Il y a des gens comme ça, on met du temps à les aimer, ils ont des qualités discrètes. En 2003, elle venait d'entrer au CNAC, elle était pleine à la fois d'élan et de doute, et on s'appelait souvent. Elle est tombée de sa corde volante, elle s'était mal attachée. Ma vie est abîmée de sa disparition. Depuis, je ne peux pas travailler avec l'un ou l'une d'entre vous sans penser à elle, à l'absence de sa gaieté, et je tremble dès que vous êtes là-haut. Je ne regrette pas le temps où on faisait du cirque sans filet, et pourtant, malgré moi, quand je vois un ou une artiste attaché à une longe pendant une représentation, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça moins beau, et je sais qu'à la fois, c'est et ce n'est pas une question de goût. Je m'explique. C'est une question de goût parce que je connais des tas de gens qui, au contraire de moi, ne peuvent profiter du spectacle que s'ils savent que la personne là-haut, sur son trapèze, ne risque rien. Et il y en a d'autres qui sont sensibles à l'esthétique du geste et peu leur importe si celui qui le fait est attaché ou non. Et ce n'est pas une question de goût parce qu'au-delà du fait qu'on préfère l'une ou l'autre des histoires qui se jouent, c'est la nature même du cirque que la longe et le filet ont changé. En inventant la longe et le filet, on a retiré au cirque sa dramaturgie première, le rapport réel et concret à la mort. Plutôt que de l'avouer, ce qui permettrait de travailler à chercher les lignes de force équivalentes, on en fait un tabou, craignant sans doute, en reconnaissant qu'on ne fait pas de cirque sans tourner autour de la mort, On pourrait encourager des artistes à risquer leur vie. Mais ce tabou crée un vide de la pensée. Je vois, lorsque je travaille avec vous, comment vous êtes souvent perdu pour écrire votre cirque, inconscient du fait que, privé de l'histoire essentielle que vous étiez venu raconter en venant sur la piste, vous habillez vos gestes d'autres histoires plus anecdotiques et qui ne vous nourrissent qu'imparfaitement. Il n'est pas question de revenir au temps où on mourait d'une chute. Il faut juste être conscient que, puisqu'on ne vient plus au cirque pour vivre le saut de la mort au sens propre, il faut bien le vivre au figuré, et les histoires qu'on raconte doivent, même invisiblement, en procéder. La longe fait entrer le cirque dans le monde des songes, du mensonge et des métaphores. En même temps, elle humilie notre honnêteté. Elle nous force à revenir sur notre désir d'absolu. Elle nous force à devenir adulte. Et l'âge adulte ne va pas de soi au cirque. Enfin, je dis âge adulte. Je devrais dire notre part adulte. On est tous un 4/4. En nous, une part d'enfant, une part d'adulte, une part de vieillesse, une part d'adolescence. 4 parts, quel que soit notre âge. Je me souviens que petit, je m'asseyais sur un banc pendant la récréation et je regardais mes camarades en m'étonnant de cette agitation. J'étais vieux à ce moment-là. Aujourd'hui encore, des fois, c'est le matin et j'ai envie de me reposer. C'est toujours ma part de vieillesse. Au contraire, il faut prendre une décision et je la prends avec raison. Ma part adulte, je m'émerveille. Ma part d'enfance, c'est celle qu'on évoque le plus souvent, retrouver sa part d'enfance, ne pas perdre sa part d'enfance, regarder le monde avec des yeux d'enfant. On la valorise énormément, notamment dans le monde du spectacle. Avec la part d'adolescence, c'est une autre histoire. Cet état où toutes les questions paraissent cruciales. Comment je m'habille? Est-ce que je lui dis que je l'aime? Quel chemin je prends? Et mes parents, est-ce que je les méprise ou est-ce que je les admire? Je suis de droite ou de gauche? J'aime les filles ou les garçons? Je ne devrais pas changer de vie? Est-ce que je laisse tout tomber? Cette façon particulière que l'adolescence a de considérer les choses et de les vivre, l'attirance au déséquilibre, ou plutôt la relation ambiguë, douloureuse, illuminée ou apaisée que chacun d'entre nous entretient à la limite, cet état qu'on appelle l'adolescence ne s'arrête pas à 17 ans. L'adolescence, c'est notre part tragique, celle des choix cruciaux, des engagements irréversibles, celle qui nous amène au croisement de deux chemins inconnus et nous pousse à choisir au risque de l'erreur. L'adolescence, c'est nos amours dévorants et nos promesses inviolables. C'est la part de nous qui veut pouvoir se regarder dans un miroir sans baisser les yeux. Il y a sans doute un réflexe de survie des adultes à avoir enfermé l'adolescence dans un temps de crise, sous-entendant par là qu'une fois que c'est fini, tout ce qu'on s'est promis alors n'a pas besoin d'être tenu. Pourtant, le monde irait mieux, je crois, si devenus adultes, nous tenions les promesses que nous nous sommes faites quand nous avions 15 ans. Le cirque, ce n'est rien d'autre que l'exercice de notre adolescence, une façon d'être toujours au bord et de tenir obstinément à la vérité. Le cirque, c'est l'adolescence qui nous reprend comme une fièvre.
Cette idée, j'ai l'impression que ça revient souvent, de la vérité, la quête de la vérité par le cirque, ou alors le rapport à la vérité et l'imperfection. J'ai l'impression que c'est deux choses qui ouvrent.
Oui, ben, c'est Métopos, hein. J'ai fait un livre sur Fournaise en 2008, et le premier texte, c'était un texte qui s'appelait « Éloge de l'imperfection ». C'est marrant parce que quand on a fait la reprise, justement, cet automne, enfin l'automne dernier, puis il y a un an, et puis finalement le Covid nous a empêchés de le monter, donc finalement on l'a joué un an après à Circa, là, cette année. Ce texte, qui était vraiment l'introduction du livre, a été choisi par une de mes des artistes. Elle a envie de le dire sur scène, alors elle l'a dit, je lui ai dit, écoute, bah oui, ça va. Mais c'était d'ailleurs une sorte de diapason, en fait. Je pense que moi, j'ai l'impression qu'on se trompe en voulant faire des choses parfaites. C'est juste pour se rassurer. Mais finalement, c'est facile d'offrir ce qu'on sait faire. C'est plus difficile d'offrir ses imperfections. Et puis on n'est jamais tombé amoureux de quelqu'un parce qu'il était sans défaut non plus. Et le spectacle, c'est encore un des... Le spectacle, moi, c'est pareil, moi qui viens du théâtre, bon ben, un truc sans défaut, ne fait pas, il n'y a pas de deuxième acte, quand tout va bien, quoi. Enfin, c'est forcément, c'est la définition du personnage tragique, c'est quelqu'un qui est, au début de la poétique, Aristote dit, la définition d'un personnage tragique, c'est un gars qui est ni parfait, totalement parfait, ni totalement pourri, je traduis, hein, du grec, pourri, je sais pas, pourri, pourrios, ni totalement parfait, ni totalement pourri, à qui il arrive des choses graves, mais pas archi graves, parce que sinon, de toute façon, ça, il faut qu'il puisse s'en sortir, mais qu'en fait, il fait suffisamment d'erreurs pour ne pas s'en sortir. C'est-à-dire, c'est vraiment une sorte d'entre-deux, en fait. C'est vraiment nous.
Mais c'est nous, oui.
C'est-à-dire, on boite, Nos vies sont boiteuses, nos sentiments sont boiteux. C'est d'autant plus beau au cirque, en fait, quand à un moment, cette recherche de... Cette obligation de perfection, parce que tout d'un coup, si j'ai pas la précision d'un geste, je tombe. Elle est armée. Elle est armée comme on arme une arbalète par l'aveu de ce boitement, de cette claudication de l'âme, du fait qu'on ne sait pas comment on attrape les choses. Et... C'est d'ailleurs ça qui est souvent difficile quand les gens veulent créer des personnages au cirque, c'est que un circassien, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, il oblige son corps, il décide. Un personnage, une personne en général dans la vie, c'est quelqu'un à qui il arrive quelque chose. On dit acteur, mais on devrait nous appeler plutôt des réacteurs, c'est-à-dire. Il avait regardé un film, et on voit comment il est monté. Quand quelqu'un parle, le plan montre toujours la personne qui écoute, qui reçoit en fait. La réaction, il y a très peu de façons d'agir. Mais chacun a une façon extrêmement intime, des milliers de façons intimes de réagir aux choses. En cherchant, c'est une survie, on échappe, de plein fouet, on triche, on triche pas, enfin voilà. Et oui, donc l'imperfection, c'est tout ça en fait, c'est tout ça. C'est ça qui nous rend beau. C'est, voilà, après on met du temps souvent à se dire... Je prends souvent, quand je suis avec des jeunes gens, cette histoire de la timidité, qui est une sorte de poids énorme pour chacun. Et la timidité, c'est quand même... C'est beau quelqu'un qui n'est pas à l'aise au milieu, c'est beau quelqu'un qui rase les murs, il n'est pas moins présent. Heureusement que tout le monde ne se met pas en plein milieu des pistes en étant à l'aise. On s'emmerderait profondément, l'humanité serait fatigante. Mais il y a des gens pour qui le chemin qui les amène devant les autres ou vis-à-vis d'eux-mêmes est tellement immense que faire trois pas vers nous, c'est déjà une odyssée, c'est quand même magnifique ça. Et la vérité, c'est ça, c'est cette sorte de courage pour moi, c'est-à-dire le courage d'être venu alors que rien ne nous y forçait. Il y a deux chemins pour moi dans le spectacle, enfin il y a deux chemins, c'est moi d'ailleurs en tant que pédagogue hein, par exemple, moi mon boulot c'est d'amener des gens par l'escalier jusqu'au 10 mètres, le plongeoir du 10 mètres. Mais mon métier c'est de m'arrêter là, c'est-à-dire que finalement l'acte spectaculaire d'un artiste c'est de se lancer, c'est qu'à un moment on l'a amené au 10 mètres et il dit bon ben maintenant je me jette, je sais pas comment... se jeter, ce courage de l'adolescence, le courage, voilà, c'est-à-dire, je dois traverser une rivière, je sais que je ne sais pas nager, je ne sais pas si j'ai pied, et j'y vais, bordel, c'est pas rien.
Ce podcast en trois parties a été réalisé par Alexandra Joss et Sylvain Bardi pour Médias Communs et Radio Caravane. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez toutes nos émissions sur radiocaravane.net.